Bonjour à tous et bienvenue sur Extasia.fr pour notre 25e podcast consacré au film de l'été 2015, car l'été n'est plus que la saison des blockbusters, comme le prouvent les sorties de Fantasia, de Wong Chao ou de Hill of Freedom de Hong Sang-soo que nous allons évoquer lors de ce podcast. Nous allons parler de plus d'une dizaine de films asiatiques qui sont sortis en salle entre juin dernier et septembre prochain, en commençant par La bataille de la montagne du tigre de Tsui Hark, qui est en salle depuis le 17 juin. On en a légèrement parlé lors du dernier podcast. Est-ce que Martin, par exemple, tu peux nous résumer ton point de vue sur le dernier film de Tsui Hark ?
Alors pour moi, c'est déjà d'une très grande surprise, et surtout c'est la confirmation que Tsui Hark est enfin il a en pleine mesure de tous ses moyens. Voilà, il a été un peu hésitant, même absent pendant les années 2000, il faut bien dire ce qu'il est. Et il est réapparu avec le premier Détective D, qui était sa première collaboration avec la République de Chine. Et il proposait un cinéma où il réutilisait le même folklore qu'à l'habitude, mais de manière un peu différente. Et je pense qu'il a. Et il a été un peu tâtonné pour voir un peu comment fonctionnait son nouveau public, qui est vraiment un public de quelques milliards de personnes, donc c'est pas rien. Ce qu'il attendait, et puis qu'est-ce que lui pouvait apporter de plus. Donc forcément, quand arrivait la 3D relief, ça a été un nouveau joujou pour lui, et une nouvelle façon de concevoir sa mise en scène. Et il a vraiment apporté une plus-value à son cinéma, quoi. Detective D, le deuxième qui a été sorti l'été dernier sur les écrans, était vraiment foisonnant, hyper riche, extrêmement rythmé, des idées à chaque plan. Une vraie bonne utilisation du 3D relief, quoi. On a rarement vu ça au cinéma, et c'est peut-être l'une des meilleures depuis Avatar.
C'était aussi exercé avec Dragon Gate, il me semble.
Oui, bien sûr, mais pour le coup, il était, même en festival, les trois quarts du temps, il n'était pas projeté en 3D relief, donc à part les chanceux qui ont acheté le Blu-ray.
Et après, même de son propre aveu, il disait qu'il s'était un peu égaré.
Yongji, c'est vraiment, là, pour le coup, c'est la pépite angulaire, c'est là où tu sens qu'il est revenu, ce dernier là qui est sorti il y a donc 2 semaines confirme en effet que ça y est, voilà, le grand Suark est de retour, il a retrouvé son trône et il va régner sur le box-office chinois pendant belle durée, et en tout cas je suis le premier ravi. Pour remettre un peu les choses dans son contexte, la bataille de la montagne du tigre est donc une histoire vraie qui a été romancée par l'un des membres justement de cette équipée, et ça a été, comment dire, un vrai succès, mais au départ le roman était considéré comme subversif et pas très apprécié par justement les autorités. L'opéra de Pékin a été adoubé par le régime. La version de l'opéra a été adoubée et c'est devenu l'un des 10 opéras du gouvernement, si vous voulez. Donc c'est devenu une espèce d'outil de propagande, plus ou moins. Il a été adapté en film, en série et tout ça. C'est comme ça que Tsui Hark l'a découvert. Dans une interview récente, il avait dit que quand il était projectionniste à New York, il avait la copie, il n'arrêtait pas de la projeter. Et c'est comme ça qu'il est vraiment tombé amoureux de ce film. Et ça explique aussi pourquoi il a utilisé cette introduction avec contemporaine. Alors certains peuvent la trouver maladroite et tout ça, mais en tout cas c'est une forme de résonance, je pense, pour les Chinois que nous on comprend pas forcément, mais en tout cas qui est assez fort chez eux. Voilà, ce côté revenir à ses racines, et faire un que c'est sa culture, quoi. Voilà, donc c'est une sorte d'expat qui va revenir chez sa grand-mère et tout ça, et donc bon voilà. Mais voilà,
faut peut-être quand même expliciter un petit peu ça.
Oui, voilà, donc il faut bien savoir, c'est en 1946, un bataillon se rend dans une région montagneuse pour aider des villageois qui sont malmenés par une bande de pillards qui règne sur la région. Voilà. Et donc, ça va être entrer dans la forteresse et.
Donc, il est dans la fameuse montagne du tigre.
Exactement, et neutraliser le fameux Hawk.
Je voulais surtout revenir, parce que j'aimerais bien entrer un peu dans le vif du sujet, dans la polémique du film, sur cette introduction. C'est vrai qu'on est dans un jeune Chinois qui va commencer à travailler aux États-Unis, dans la communauté chinoise, et sur le qui commence à voir cet opéra effectivement lors d'un karaoké.
Oui, un extrait du film.
Ses amis se moquent de lui parce que c'est pas du tout moderne, et on sent qu'il y a une résonance en lui. Il va prendre le train pour aller à Silicon Valley, où il a un super poste, et en fait, il va décider de revenir chez sa grand-mère, à cause de ces images donc de cet opéra, pour revenir aux véritables racines de ce qu'est l'identité, de cette identité chinoise. Et à mon sens, bon alors là, on est à quelques semaines de la sortie du film, j'espère que vous l'avez vu, et c'est vrai qu'on a eu un petit débat déjà sur le film, on peut entrer dans les spoilers, c'est vrai que c'est vraiment ce qui est problématique dans le film, c'est-à-dire cet aspect de propagande du film, cet aspect
je pense pas du tout que ça soit une propagande. C'est vraiment une idée de Suard, il prend vachement ses licences avec la propagande communiste et idéologique chinoise. Mais je pense que lui, étant donné qu'il a été aussi, comment dire, expatrié, enfin, il a fait ses études en Haut-Texas, et ensuite, après la rétrocession, il a tenté sa chance à Hollywood, avec plus ou moins de succès, comme on connaît. Donc voilà, il sait ce que c'est, c'est-à-dire se couper finalement de ses racines, et à un moment, voilà, c'est retrouver ça, je pense qu'aussi c'est une façon de dire, avec aujourd'hui toute la technologie et compagnie, on a l'impression qu'on peut garder son petit chez soi où qu'on aille, mais c'est pas vrai, c'est pas là où sont les vraies valeurs, et des fois il faut les chercher vraiment auprès des siens. Mais voilà, il dit pas.
C'est quand même ce que dit la structure du film, c'est-à-dire que le film commence comme ça, on est en 2015. Il y a ce jeune qui se remémore cette histoire patriotique. Le film est un flashback, on va y revenir après. On revient à la fin du film avec le film chez le jeune chez sa grand-mère en Chine, et les héros de cette épopée nationaliste qui reviennent s'asseoir à la table de chez sa grand-mère. Donc on est quand même...
Attention, c'est pas une épopée de nationaliste, c'est une épopée qui a été récupérée par voilà. Mais voilà, c'est très ambigu. Mais il y a, enfin, pour moi, il n'y a clairement pas de message idéologique dans le film. Et ça se voit déjà dans la façon dont il va traiter ses personnages, la façon dont il va traiter son histoire. À aucun moment, il y a un personnage qui va dire « Vive le gouvernement chinois, vive la Chine ». Quand ils évoquent, comment ça s'appelle, les combats avec les Japonais, à chaque fois, il n'y en a aucun qui dit « Ah, c'est peur de Japonais », comme on voit dans les films de propagande. Hein. Moi, j'en ai vu quelques-uns, notamment la rétrospective du film chinois qui a eu lieu à la Cinémathèque il y a quelques mois. C'était ça, quoi. Donc... il n'y a pas ce discours sur la puissance du communisme et tout ça. Donc tout est laqué. C'est vraiment un pur film d'aventure, un pur film de guerre, un film de personnages. Mais voilà, c'est pour lui, c'est une histoire qui fait partie du patrimoine, et c'est quelque chose... pour lui, les Chinois ne doivent pas perdre leur identité. Il faut qu'ils conservent quelque chose, et le folklore, la culture, les superstitions et tout ça, mais si on n'y croit plus tellement aujourd'hui, elles font partie de leur patrimoine, et il faut les chérir. Voilà. Mais déjà, dans le cinéma de Hong Kong, il y avait un côté très aussi nationaliste. Hein, voilà,
dans des bons films, mais Sammo Hung, c'est très nationaliste.
Ah oui, voilà.
Xénophobe.
Ah oui, et des fois, voilà, les Jimmy Hong Yu, oula, attention. Donc,
mais est-ce que c'est nationaliste, alors, est-ce que c'est nationaliste dont tu parles, est-ce qu'il se trouve pas fort? Ils ne sont pas forcément, à mon avis, frontalement, c'est-à-dire dans le dialogue, mais toi, c'est dans cette mise en scène.
Effectivement, alors moi, le souci que j'ai avec le film, c'est un souci qui n'est pas forcément idéologique, mais qui est un souci esthétique. C'est-à-dire que ce plan avec les fantômes du passé qui reviennent chez la grand-mère est quand même extrêmement, extrêmement gênant d'un point de vue esthétique. Suard a d'ailleurs un peu de mal avec celui-ci, vu qu'il l'annule. Je suis désolé, on va parler un peu de la fin du film, mais il l'annule dans le dernier plan du film. C'est-à-dire que le film se clôt là-dessus.
Ouais, mais alors, il faut bien savoir, il a expliqué dans une interview qu'en gros, le plan final.
C'est pas tout à fait le plan final.
Il avait tourné, en réalité, ça devait être
la vraie fin.
Et le problème, c'est que les producteurs ont fait, mais non, mais personne ne va y croire à ton machin. Donc, il avait gardé de côté, il avait tourné en 2-3 mouvements à un truc plus réaliste, qui fonctionne très bien. Mais voilà, mais c'est plutôt. C'est la série sur le gâteau, c'est-à-dire qu'à un moment on n'est pas dans la, mais de toute façon le film le monte à quel, c'est comme, c'est très comic book, Voilà. C'est pas du tout une version hyper réaliste des événements. Et il y a un moment, c'est, il fait dire bon, ok, bon, ça va, le côté la famille et tout ça, mais faut pas oublier, c'est un pur divertissement et t'envoie un espèce de truc, un espèce de ride final.
Le message est à double tranchant, c'est-à-dire que le film se termine sur cette image d'abord idéalisée de la Chine du passé. Il y a marqué pratiquement fin, il y a le nom des producteurs qui apparaît en France, qui signifie voilà, j'ai fait le film pour les producteurs. Et en fait, il y a une scène de post-générique, une fois que le nom des producteurs sont apparus à l'écran, où ils montrent ce combat. On a parlé de James Bond, qui est complètement over the top, où il fait n'importe quoi, où il déconstruit toute la culture, où tous les soupçons qu'on peut avoir de propagande et de nationalisme. Mais si ce n'est qu'il a quand même montré ces images qui sont des images d'une esthétique de propagande.
Non, c'est pas, pas la propagande, c'est vraiment. Pour moi, de toute façon, c'est le Nouvel An, c'est une fête qui est extrêmement importante dans chez les Chinois. Enfin, faut bien savoir, en plus, c'est une date de sortie de films. Enfin, voilà, les films de Nouvel An, c'est quelque chose qui a une énorme importance au cinéma, et notamment au cinéma de Hong Kong, puisque c'était la date où il faisait le plus de sous, quoi. C'est-à-dire, il faisait des grosses comédies familiales. Il y en a une qui est sortie en France, de Tuyard, qui était Le Fessin Chinois, qui est vraiment, une espèce de grosse comédie potache et tout. Tous les réalisateurs.
J'ai beaucoup moins de mal avec Le Fessin Chinois.
Oui, c'est plus facile, mais parce qu'il y a côté blague. Donc là, t'as dit que c'est un peu plus sérieux et nostalgique, donc forcément. Mais il a. La façon dont il a tourné, c'est pour moi, c'est pas du tout un côté glorifiant ou quoi que ce soit. Il faut pas, et surtout pas y voir le côté le petit livre rouge et tout ça, parce que ça n'est pas dedans. Et voilà, faut pas donner ce type de lecture au cinéma de Stuart. Au contraire, qui est beaucoup plus distant, accessible.
Justin, peut-être un dernier mot sur le Suaire pour nous mettre d'accord sur
déjà les deux, l'introduction et l'épilogue, c'est lui qui l'a ajouté c'est des ajouts propres à lui, c'est pas des producteurs pour renforcer la dimension nationaliste, alors que les producteurs ont préféré l'histoire classique racontée sans aller-retour dans le temps, donc déjà on peut pas soupçonner que ça soit là pour ça. Et puis, de toute façon, dans tous ces films, il y a ce mélange-là, ce côté traditionnel qui dynamite un peu avec la modernité. Il y a un côté référent, et puis il y a un côté où il veut balayer un peu tout ce qui s'est fait. Quoi. Donc, ça a été une fois en Chine, où Wong Fei-Hung, c'est un peu il réinvente complètement le personnage, tout en montrant que c'est un personnage qui accepte pas trop les Occidentaux, qui est un peu l'ancienne Chine. Ou même dans The Lovers, où il dynamite l'histoire en rajoutant un côté un peu queer, un peu gay, qui n'était pas forcément dans la légende d'origine. Donc là, il y a un peu de ça aussi. Mais là, vu que c'est le gouvernement chinois, il ne peut pas rajouter un thème plus subversif frontalement. Donc là, c'est plus au niveau visuel qu'il le fait. C'est un peu le monde du cinéma qui prend le pas sur le côté, on peut dire, idéologique d'origine de l'histoire. C'est le monde du cinéma qui reprend le dessus, avec vu que le début du film, hormis la première fusillade, le début est un peu laborieux d'ailleurs, parce que ça essaie d'être relativement réaliste, et puis il y a une rupture à mi-film, ça doit être au moment où il y a l'apparition du tigre, c'est la séquence où on bascule là dans l'imaginaire complet, quoi. Et donc là, le film devient justement le ride, comme disait Martin, le pur ride d'aventure, où il y a des complots, le méchant, c'est un pur méchant de James Bond, de serial, il n'y a plus aucun réalisme au niveau du film. Et justement, la fin, c'est pour nous rappeler ça, la deuxième fin, c'est pour vous laisser sur la note comme quoi c'est le cinéma, c'est l'imaginaire qui triomphe, plutôt que la source, effectivement, qui est quand même plutôt orientée, quoi.
Un dernier conseil, c'est d'aller le voir si vous pouvez encore en salle et en 3D, parce que la 3D est vraiment impressionnante.
Ah oui.
Donc la bataille de la montagne du tigre de Tsuer qui est en salle depuis le 17 juin. Le 17 juin, c'était aussi la date de sortie de Mustang de Deniz Gönzer-Ergüven, qui est donc un film turc. Samir, je crois que tu l'as vu.
Oui.
Qu'en as-tu pensé ?
C'est un. Déjà, je n'ai pas l'impression que. Enfin, on dit souvent que c'est le Virgin Suicide de Turc. Je ne pense pas, parce que ce genre d'histoire, malheureusement, est tellement ancienne que le cinéma se l'est approprié depuis très longtemps. Donc je pense que déjà on va
Vous nous rappelez brièvement l'histoire?
Oui, bien sûr. Alors, j'allais y venir. En fait, c'est tout simplement... la réalisatrice souhaitait faire un film sur la Turquie contemporaine, sur la société turque contemporaine à travers un récit axé autour du quotidien de cinq jeunes filles qui évoluent dans un milieu un peu austère, voire totalitariste, d'un petit village en Turquie. Et le film commence sur la fin de l'année scolaire. Et pour fêter cela, ces cinq jeunes filles, qui sont sœurs, décident d'aller se baigner, d'aller à la plage, très simplement. Elles sont avec leurs amis, leurs copains, leurs copines, et elles vont à la plage. Et quand elles reviennent chez elles, leur grand-mère, déjà on le voit très bien sur le visage de la grand-mère, elle hésite à le faire, mais elle va quand même le faire, elle les corrige, physiquement. Elle commence avec les deux premières, les deux aînées. Puis ensuite, les filles commencent à comprendre ce qui s'est passé, à savoir que le voisinage tout simplement s'est plaint du fait que ces filles sont allées à la plage, qu'elles se sont baignées avec des garçons, et donc elles sont devenues des filles de mauvaise famille. Donc on apprend que leurs parents sont morts. On ne sait pas dans quelles circonstances, mais ils sont décédés, ils ne sont plus là, en tout cas, ils n'existent plus. Et on apprend très vite aussi, on découvre très vite celui qui va aider la réalisatrice à faire en sorte que le récit devienne non plus une comédie, mais plutôt un drame, c'est-à-dire en la personne de l'oncle. Certainement peut-être le frère du père décédé. Le frère du père décédé. L'oncle qui, ne supportant pas les commérages, donc ce qui se passe ailleurs, comment les gens autour voient eux, décident de les enfermer dans la maison, et quitte même à qu'elles n'aillent plus à l'école, et qu'elles deviennent donc des futures épouses. Voilà.
Oui, dès le départ, tu comprends qu'il est hyper réactionnaire.
Voilà, c'est ça.
Voilà, déjà, il appréciait guère leur mode de vie, et là, il a trouvé grand le prétexte pour pouvoir les enfermer, et voilà, mais c'est surtout le fait de les marier, c'est bon pour son statut, tu vois qu'il a une place au sein de cette communauté qui est assez importante, voilà, du fait que bon, bah voilà, il y a des belles filles qui sont toutes vierges, hein, parce que la virginité est quand même au cœur de cette histoire, et qui puissent voilà les marier à tour de rôle, quoi.
Les marier afin qu'ils deviennent des personnes respectables. Voilà. Or, moi, pour moi, il y a un problème avec ce film.
Ah.
Ouais, il y a un gros souci. Ta gueule. Le film. Ta gueule, c'est dit. Pour les auditeurs qui ne comprennent pas. Ta gueule, c'est dit.
Nicolas, on a entendu.
Nicolas, tu ne coupes surtout pas le ta gueule, c'est dit. Donc. En fait, il y a un petit souci. C'est pas un gros problème, mais c'est un petit souci. C'est que le film est vraiment très maîtrisé. Je veux dire que la cinéaste, elle a un regard assez personnel sur ce récit. On devine aisément que peut-être c'est quelque chose qu'elle a connu, pas forcément elle-même, mais plutôt dans son entourage. En tout cas, elle sait exactement où est-ce qu'elle va, le récit est maîtrisé, elle sait exactement de quoi elle parle, enfin de quoi le film. Mais il y a quelque chose, moi, qui me gêne dans ce film, c'est l'oncle, le personnage de l'oncle. Alors c'est un film, on pourrait peut-être dire, c'est sur la vie de ces cinq jeunes filles, pourquoi pas. Mais il y a un personnage dans ce film qui est très important, qui est l'oncle, et ce personnage, pour moi, n'existe pas. Il n'existe pas au sein du film. Il n'a pas la légitimité d'exister. Pourquoi ? Parce que c'est un personnage qu'on est obligé de détester. On ne peut pas avoir un minimum d'empathie pour lui. Le cinéaste le dessine de manière à ce qu'on doit le rejeter. Il n'a rien. On ne sait rien sur lui. On ne sait pas... En fait, c'est un robot qui est là pour créer du mal.
C'est un moteur narratif, en fait.
Voilà. Mais il crée que du mal. Et il y a un moment dans le film, on apprend même qu'il a quelque chose qui est inacceptable, et on le devine, elle ne le dit pas, c'est, enfin, elle ne le filme pas, mais on le devine. C'est aussi la force de ce regard cinématographique.
C'est clairement édicté par le film.
Voilà. Et c'est ça qui me gêne, c'est qu'en fait, à un moment ou à un autre, il n'y a pas de contre-champ. On reste toujours sur le champ, à savoir ces cinq jeunes filles qui vont essayer de résister, tant bien que mal. Il y en a une qui va essayer plus ou moins de... Qui va accepter cela parce qu'elle a la possibilité de pouvoir se marier avec quelqu'un qu'elle aime, donc elle a beaucoup de chance là-dessus. Puis on a une qu'on va obliger, elle sera assez réservée, mais elle va le faire, et puis il y aura une issue dramatique. Et puis la dernière qui, elle, va se révolter et qui fera peut-être même l'alter ego du cinéaste. Mais moi, ce qui me gêne, c'est comment elle dessine le penchant, le mal absolu. Et à partir du moment où, moi, spectateur, je vois un personnage qui n'existe pas dans le récit, qui n'a pas cette légitimité d'exister, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, le cinéaste me demande de le détester cordialement, de le détester pleinement, mais de surtout ne pas laisser lui trouver une raison. De le détester, de ne pas le considérer comme un personnage, mais comme quelqu'un qui est là, qui ne pense pas, qui n'a pas de vie, qui n'a pas de chair. Et moi, à un moment, ça me gêne, parce que ça me fait penser, d'ailleurs, je faisais le parallèle avec un autre film, un film français de Philippe Faucon, qui s'appelle Samia, qui avait été réalisé dans les années 80, début 2000, je crois. Et c'était l'histoire, il suivait une jeune Française d'origine algérienne, je crois, personnage titre, Samia, le bon titre, qui essayait tout simplement de vivre au quotidien sa vie à Marseille, et qui se retrouvait confronté à un grand frère qui sombrait dans une espèce de traditionnalisme, bien avant tout ce que l'on vit aujourd'hui. Donc c'est les années 90, je crois. Et à un moment dans le film, il se passe un truc extraordinaire, c'est que Faucon interrompt le récit et l'oriente uniquement autour du personnage du grand frère. On voit le grand frère dans un centre commercial, il descend les escalators, et il se retrouve en face d'un copain, je crois, qu'il connaît bien, qui se fait interpeller par des flics, hein, parce que bon, bah, c'est le faciès. Et à ce moment-là, il va essayer de s'en mêler, il va y avoir une situation. Donc, sans qu'il le dise, Faucon, on comprend un peu la situation. Je ne dis pas qu'on justifie les actes de ce grand frère vis-à-vis de sa sœur, qui sont ignobles. Mais on cerne le personnage. On lui donne les clés. Après, c'est à nous, spectateurs, de faire le film. Mais on nous dit, voilà, le personnage, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Avec le film avec Mustang, j'ai pas cette impression qu'on lui donne des clés pour le personnage. Et c'est ça, moi, qui me gêne. Après, je veux pas dire, n'allez pas voir ce film. C'est un film vraiment maîtrisé, très aéré. J'ai hâte de voir ses prochains films, parce que j'ai vraiment envie de savoir comment elle va dessiner un petit peu son parcours professionnel à travers le cinéma. Ça m'intéresse. Mais à partir du moment où elle me dessine un personnage qui est un peu manichéen,
alors, je me pose des questions. Peut-être la réponse à la problématique que tu poses est dans un élément que tu analyses dans le film, c'est-à-dire que la cinquième fille, la petite fille, échappe, on va raconter la fin, désolé pour les spoilers, échappe à ce milieu, retrouve son institutrice à la fin, et effectivement l'alter ego de la cinéaste. Et je pense que c'est un point de vue qui est tout à fait assumé dans le film. Or justement, cette question du point de vue est extrêmement important, c'est-à-dire que le personnage de l'oncle, vu de manière négative, est vu, et tout le film est vu au travers du regard de cette petite fille, de la cinquième petite fille, qui voit uniquement ce personnage comme un être effectivement presque diabolique, vu que c'est lui qui est à l'origine de leur enfermement, c'est lui qui commet des actes innommables sur ses sœurs, qui conduisent à des tragédies. Et donc, ce manichéisme du personnage est, à mon sens, justifié par le choix du point de vue de la cinéaste, qui dit, on va voir le film à travers, d'une part, l'entité de ces cinq filles, et surtout à travers cette cinquième fille, la plus jeune, qui voit les actes dont tu parlais que commet cet oncle. Donc, de fait, à partir du moment où le point de vue, il y a une unité du point de vue sur cette fille, l'oncle ne peut être décrit que comme un personnage uniquement malfaisant.
Oui, mais à ce moment-là, moi, le film n'a pas eu d'exister. parce que moi ça me donne ça me donne
un point de vue dans un film.
Non, c'est pour moi c'est il y a pas de point de vue par rapport à la jeune, à la petite hein. Je ne pense pas parce que les non je ne pense pas qu'il y ait uniquement enfin qu'elle se superpose au regard de la petite fille. Parce qu'il y a un petit moment assez intéressant où je sens quelque chose avec l'oncle, c'est quand elle lui demande quand elle lui demande si elle peut assister au match de foot. Et ça c'est très très beau parce que il est là, il est avec ses amis, ils sont dans la cour, ils vont voir certainement un match de foot aussi et puis la il a ce geste très intéressant, il la prend comme ça, il lui dit non écoute tu peux pas, mais il a quelque chose.
Oui mais et qui là... est présent dans le champ, c'est la petite fille qui est présente dans le champ, c'est fille. À travers la petite fille
qu'on
voit
cette oui, scène. Oui mais il y a quelque chose qui pourrait être intéressant à ce moment là, mais elles sont cinq, elle n'est pas toute seule, il y a d'autres filles et je trouve que c'est peut-être un peu trop facile pour cette cinéaste de se uniquement à ce moment là si je te suis de se superposer à travers ça, parce que ça voudrait dire quoi. En fait, je reviens à ce que j'ai dit au début, à savoir, je veux filmer la société turque contemporaine. Là, ça me gêne à ce moment-là, si je te suis ton point de vue. Parce que je dis pas, enfin, c'est un enfant. Alors, à ce moment-là, elle se superpose au regard d'un enfant. Et quand on est enfant, on voit des choses et on pense que ce que l'on voit, c'est la vérité. Mais il y a des non-dits et on ne les voit pas, les non-dits. Quand on est un peu plus grand, on comprend parce qu'il y a l'expérience qui fait. Et si elle regarde la société turque à travers le regard de l'innocence d'un enfant sans les non-dits, là, il y a un problème. Là, il y a un souci, par contre. Là, ça me dit rien du tout sur le film. Là, je me pose des questions. Mais en même temps, ça me donne envie d'aller voir, de voir ces autres films, parce qu'entre celui-ci et les autres, il va se passer des choses. Donc, ça pourrait être intéressant.
Bah pour l'instant, on peut voir depuis le 17 juin Mustang de Denis Gamze Erguven. En 3D ou en 2D plutôt.
En 2D, parce que
3D. Enfin, bon, film de Tuyark.
Il y a des coups dans ce film en 3D, on n'aimerait pas les voir.
Le 1er juillet est sorti Fantasia, le nouveau film de Wong Chao que tu as beaucoup aimé. Sidi, peux-tu nous rappeler de quoi ça parle? Alors, et ce que tu en as pensé, même si on a déjà lu ta critique enthousiasmée et enthousiasmante sur Estadia.
Ah oui.
Et pas de spoil.
Oui. Bah, tout le monde meurt. Pardon. Oui, Fantasia, je crois que c'est le cinquième long métrage de Wong Chao, cinéaste chinois découvert en 2001 avec L'orphelin d'Anyang, un très beau film qui suivait donc. Voilà, c'était une forme, pour simplifier, de The Kid version chinoise. Donc dans Fantasia, on suit une famille dont le père est malade. Il est atteint d'une leucémie et on va accompagner sur 1h20 les effets qu'ont cette maladie, non seulement sur la famille d'un point de vue social, économique, mais aussi au niveau de leur psychologie. C'est-à-dire que à partir de ce malheur, les personnages vont presque trouver une forme de résistance à leur quotidien, de résistance à leur sort. Peut-être que c'est pour ça que le film s'appelle Fantasia, justement. La douleur va devenir le point de départ d'un développement d'imaginaire intéressant, notamment via le personnage, qu'on peut dire principal, du fils de famille, un adolescent, qui s'appelle Xiao Lin, qui est un adolescent chétif, malmené en classe, dont tout le monde se moque, et qui est à une période de sa vie donc où il pense aux filles, où il est un petit peu voilà quoi, il a autre chose à faire que d'être bon à l'école, disons. Et ce qui va être le plus intéressant dans ce film, c'est ça, c'est de suivre ce personnage en train de tout simplement gagner du temps à le perdre. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais d'une certaine manière on va le voir régulièrement tous les jours retourner au bord d'un fleuve où on ne sait pas s'il voit vraiment ce père et cette fille sur un bateau, voilà quoi, il y a une sorte de lien qui va se créer avec ces personnages qui ne font pas partie de son quotidien de base.
Tu veux dire que c'est un film vu d'un point de vue d'un enfant, mais donc on comprend les non-dits de la société chinoise alors.
Enfin d'un enfant un peu grand quand même, un enfant voilà quoi, il est déjà à une période je pense où il commence à avoir un regard un peu critique sur le réel, mais voilà, ce qui est intéressant dans ce film c'est qu'à la fois on est dans une pure chronique sociale qui va parler de la prostitution de la grande sœur, qui va parler de la difficulté pour la mère à trouver de l'argent pour financer les soins du père, puisque l'usine qui emploie le père ne peut plus s'occuper de l'intégralité des frais. Donc voilà, il y aura effectivement ce côté réaliste, un peu déprimant, mais il va quand même réserver une place à ces personnages pour discrètement se permettre des sorties de route, quoi. Et c'est vraiment ce qui, je crois, est le plus intéressant dans ce film. Qui, on sent aussi qu'il s'est passé quelque chose dans son cinéma. L'Orphelin d'An Yang était quand même un film très, très réaliste. C'était un film d'autant plus poignant qu'il était au cœur du quotidien d'un homme qui acceptait la charge d'un enfant qui n'était pas le sien. Là où ici, on sent qu'il a envie d'aller quand même vers... Est-ce qu'il a vu les films d'Apichatpong? Est-ce qu'il a voulu... C'est ce que j'essaie de dire dans ma critique, même si...
On peut se référer à ta critique, et c'est vrai que le parallèle avec Cemetery of Splendor, on va parler, c'est très bon.
Ouais, bah, c'est ça. Le fait est que j'ai vu le film d'Apichatpong 2 jours avant, et que voilà, je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser en découvrant Fantasia. Quoi. Voilà, c'est un film assez hybride, mais en même temps très discret dans ses effets, qui pour moi me donne envie de voir un peu où Wong Chow va se diriger. Quoi. Donc voilà.
Donc c'est bien.
C'était peut-être pas très clair tout ce que j'ai dit jusque-là, mais oui, c'est un film que j'aime beaucoup.
Et le dernier plan est magnifique, même si on ne le racontera pas là, on en parlera au prochain podcast. Ah, ouais. Donc Fantasia de Wong Chow est en salle depuis le 1er juillet. Une semaine plus tard, vous avez pu découvrir Hill of Freedom, le nouveau Hong Sang-soo. Sylvie, comme tu as la parole, je te la laisse pour présenter très succinctement le nouveau Hong Sang-soo, le Hong Sang-soo estival, on va dire.
Oui, donc on en avait un petit peu parlé en janvier. C'est un film qui va donc montrer, qui va suivre un Japonais qui revient en Corée pour essayer de retrouver une jeune femme qu'il a rencontrée quelques années auparavant. Et voilà quoi, ça, c'est un film vraiment très court d'une petite heure, et la fiction du quotidien de ce Japonais va partir de la lecture d'une lettre qu'il a écrite à cette femme. C'est-à-dire que...
Et donc, la lecture...
Le film s'ouvre en quelque sorte sur cette femme qui découvre la lettre qu'il lui a écrite, et on va découvrir le quotidien de ce personnage via le point de vue de la femme en train de lire la lettre, quoi. Et voilà ce que j'avais déjà dit la dernière fois, c'était que le charme de ce film était la manière dont Hong Sang-soo assumait totalement le côté projection, le côté imaginaire de ce film. C'est-à-dire que c'est l'imaginaire d'une femme en train de lire une lettre qui va guider la trajectoire d'un personnage, la trajectoire supposément vécue d'un personnage, quoi. Et il y a ensuite le charme de ce côté un peu... touristique. Je sais qu'Alvire n'était pas totalement...
Pas du tout.
D'accord.
Je dirais que t'as un peu bloqué sur l'accent.
Voilà.
Non, pas sur l'accent. Sur le monde naturel.
Mais moi,
pour les acteurs, voilà. En parlant une langue qui n'est pas la leur.
Moi, c'est ce que je trouve séduisant. Voilà, c'est cette manière dont les personnages parlent quasi exclusivement japonais.
Oui.
Voilà, puisque le héros ne maîtrise pas le coréen. Et voilà, il y a quelque chose anglais.
Il est anglais, enfin, il est japonais.
Voilà. On sent que c'est la fin d'année, excusez-moi.
Ouais, ça doit être ça, ouais.
Donc voilà, c'est ça. Et voilà, quoi, je trouve qu'il y a une part assez assez touristique dans ce film, mais pas vraiment dans le sens péjoratif qui le rend très séduisant. Donc voilà. Je crois que j'en ai mieux parlé la première fois. Là, je suis pas dans un état.
Il y a un truc aussi assez étonnant qui est que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de personnages masculins positifs chez Hong Sang-soo.
Ouais.
Et c'est vrai que là, ça ouvre son cinéma à autre chose quand il y avait des personnages féminins assez forts dans ses derniers films qui menaient l'action. L'action qui menait le récit, on va dire. Et là, c'est un personnage masculin auquel, justement, on peut enfin s'identifier, qui a une vraie honnêteté. Et tout est lié au personnage féminin, oui. Il y a cette féminité qui est toujours présente, mais au moins, il n'y a pas de... Voilà, il y a cette ouverture vers les personnages masculins. Donc, oui, Sylvie.
Puis comme toujours, il y a cette contiguïté entre le réel et une variation. Voilà, quoi, on ne sait jamais totalement ce qui est vraiment effectif et ce qui n'est que le pur produit d'un imaginaire que Hong Sang-soo maîtrise de mieux en mieux. Et voilà, quoi, c'est vraiment un petit film qui pour moi est un de ses meilleurs.
Hill of Freedom de Hong Sang-soo, qu'on peut voir en salle depuis le 8 juillet dans toutes les salles équipées en 2D. Et depuis, ou à partir du 29 juillet, Un King Wu, Touch of Zen de 1970 ressort en salle. Il sera suivi par Dragon Hill en août, le 12 août. Samir, Justin, Martin, vous avez revu ces films en 4K
Ah non, je ne les ai pas encore revus.
Vous ne les avez pas encore revus. Peut-être Justin, tu peux nous présenter un peu ces films un peu particuliers dans la carrière de King Wu.
Oui, donc c'est un film de King Wu qui est réalisé donc à Taïwan, hein, où il est exilé depuis l'Hirondelle d'Or, donc où il a un peu façonné l'industrie du cinéma taïwanais. En réalisant donc Dragon Inn justement là-bas, en réalisant d'autres films, Raining in the Mountain et puis donc Touch of Zen. Et donc c'est un des sommets, c'est un peu un des premiers films de la reconnaissance un peu du cinéma de Hong Kong, voire même asiatique en Occident, vu qu'il a eu un prix, je crois que c'était le prix technique à Cannes, il était un prix particulier créé pratiquement spécialement pour le film. À Cannes, et donc c'est un film qui mélange un peu le côté épique du Wuxia, mais tout en rajoutant le côté l'art un peu de lettré de King Wu, avec un côté, une thématique autour du bouddhisme, et puis même esthétiquement, il y a une ambiance assez zen, il y a des compositions de plans qui rappellent les rouleaux de comment. Aidez-moi.
De printemps ?
Non. Les rouleaux, les dessins traditionnels.
Les estampes.
Les estampes, merci. J'étais en train de chercher les estampes chinoises. Donc il y a ce mélange-là. Donc il y a un côté très virtuose dans les combats. Dans les combats épiques. Et puis il y a ce mélange avec ce côté zen, ce côté un peu onirique qui rend le film très particulier. Quoi. C'est pas un Wuxia Pian. Classique et simplement avec des combats, une histoire. Donc c'est un côté picaresque vu que c'est un héros qui ne sait pas se battre paradoxalement. Et puis un côté féministe, un peu le King Wu, qui va être aidé par un personnage féminin dans sa quête. Et puis donc voilà, c'est un grand film, 3 heures. Donc voilà, qui mélange un peu tout.
Alors il faut dire quand même pour ceux qui sont attirés par l'affiche, qui n'ont pas vu le film, La Matrice Absolue de Tigre et Dragon et de Kill Bill, je crois, il y a quand même des combats assez impressionnants et on retrouve l'âme du Wuxia vraiment dans ce film. Mais il y a aussi autre chose, n'est-ce pas, Samir ?
Je connaissais de renom, mais je n'avais jamais vu de film de King Wu, surtout pas Touch of Zen. Et donc, on l'a vu ensemble, Victor, c'est vrai que, bon, je savais que ça durait 180 minutes, mais ça, c'est intéressant quand même de le préciser. C'est une véritable expérience cinématographique, ces 3 heures, parce que dans le film, j'ai trouvé qu'il y avait 3 parties importantes. Une première partie où on voit le réalisateur poser la dramaturgie, il installe son récit, on découvre ses personnages, dont celui dont tu parlais, qui est un peu, qui ne sait pas se battre, qui est
le candide.
Un peu, voilà, c'est un peu une espèce de candide, parfois insignifiant, etc. Il y a une deuxième partie où là on est c'est une partie uniquement axée autour de scènes d'arts martiaux. Et d'ailleurs, le personnage un peu insignifiant, au final, il arrive, le réalisateur, avec une transition extraordinaire, à le dessiner comme un personnage très stratège, il devient en fait un grand stratège. Il change complètement de personnalité, c'est assez incroyable. Bon, il continue de ne pas savoir se battre, mais quand même, c'est un stratège, donc c'est assez sympa. Et puis, il y a une troisième partie qui est assez courte, mais qui est là, pour le coup,
C'est le triple, c'est 2001.
Elle dure quand même 40 minutes. Hein,
elle dure quand même 40 minutes, pour dire que je n'ai même pas vu passer le temps.
C'est vrai qu'on a l'impression que le récit est terminé, et il y a cette troisième partie qui est
assez incroyable. Comme disait Victor à la sortie de la projection, c'est du Jodorowsky, quoi, complètement assumé. Mais c'est là pour le coup, on perçoit, enfin on sent l'apport du bouddhisme, enfin la question du bouddhisme à travers cette partie. Tout a été dit sur ce film, donc je ne vais rien rajouter. Mais il y a une chose moi qui m'avait bien frappé, c'est qu'à chaque moment au moment où les personnages dans le récit ils atteignent une espèce de pic de tension comme ça narratif, à ce moment-là, que fait le réalisateur ? Il prend ses personnages et donc, pour des raisons quelconques, il les met dans la nature, un rapport avec la nature très, très important, et ils sont en mouvement. Ils doivent, parce qu'il y a une espèce de pic de tension narrative pour aller jusqu'au bout de leurs objectifs, à un moment, il y a une rupture, ils sont là, ils marchent au sein de la nature, et c'est au bout qu'ils vont trouver quelque chose, qu'ils vont trouver la réponse à leur question, je ne sais quoi. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. Il y a 3-4 fois comme ça dans le film. D'ailleurs, il prend le temps de filmer ce mouvement.
Mais il faut savoir que, d'ailleurs, il y avait la maniaquerie, le côté justement de l'importance de la nature. Ça a participé à la production un peu mouvementée du film. Parce qu'en fait, il y a un moment d'un décor où il n'en était pas satisfait parce que je crois que l'herbe avait repoussé trop tôt ou quelque chose dans ce genre-là. Il avait annulé le tournage, enfin il avait stoppé le tournage pendant un an pour revenir au même endroit filmer lorsque la végétation correspondrait à ce qu'il attendait visuellement.
Mais ça prouve que c'est un élément très important de mise en scène. Et ça m'a énormément frappé pendant ces 3 heures, il doit y avoir 3 ou 4 moments. Hein, ouais. Parce que aussi, et ça qui est très intéressant, c'est qu'il prend vraiment le temps de filmer ce moment-là, une espèce de micro-quête initiatique. Et c'est très intéressant de... Enfin, on verra ça avec Dragon Inn plus tard, mais...
C'est un peu moins contemplatif. Dragon Inn, c'est un peu plus... C'est un peu plus mouvementé, un peu plus orienté à aventure classique, même si il y apporte sa patte. Mais toute chevelle, c'est le sommet de toutes les recherches un peu qu'il pouvait faire, puisque son premier film qui avait marché à Hong Kong, c'était L'Hirondelle d'Or, qui avait fait un carton, mais en fait, il avait claqué la porte du studio de la Shaw Brothers parce que on l'avait pas laissé prendre. Pourtant, c'est un film qui est très soigné quand même déjà. Pour son premier Wuxia Pian, pour son premier film d'action, et pourtant on lui avait pas laissé le temps, il a été pressé par le producteur, il avait claqué la porte pour pouvoir partir à Taïwan et produire comme il entendait ses films. Et là, c'est vraiment le sommet de ses recherches un peu picturales, narratives, avec cette lenteur, ces pics de tension, cette importance de la nature, c'est le sommet de sa carrière, on peut dire.
En tout cas, il faut prendre le temps et les 3 heures d'aller voir en août donc Touch of Zen.
Plus dans une belle copie, ça fait des années qu'on n'a pas pu le voir. On n'a pas pu le voir comme ça.
Sur DVD, dans les copies atroces,
sur le grand écran, ouais.
S'il va sortir, très certainement en Blu-ray.
Ouais, c'est pas vu, c'est Carlotta qui le sort.
Tout à fait, ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même important de le voir sur grand écran cet été. À la rentrée, nous allons parler de quelques films et de 2 films particulièrement qui vont sortir en septembre, vu que notre prochain podcast sera fin septembre. Le premier sort le 2 septembre, il s'agit de Miss Okusai, le nouveau film de Keiichi Ara. Martin, tu l'as vu, tu en es ressorti enthousiaste, peux-tu nous dire pourquoi ?
Ah oui, plus qu'enthousiaste. Déjà, c'est vraiment. Alors, on connaît peu ce cinéaste parce qu'il y a. Toute sa première période, en gros, tout ce qu'il avait fait sur Doraemon et tout ça, et pour la télé japonaise, bon, ça nous est passé sous le nez, et puis tant mieux. Mais par contre, c'est trop long métrage d'animation, on a pu les découvrir, donc Un été avec coup, Colorful, et puis Miss Okusai qui sort le 2 septembre. C'est vraiment, enfin pour le coup, c'est un vrai auteur de cinéma dans le sens où il est vraiment indépendant. C'est pas, il ne travaille pas au sein d'un studio, mais à chaque fois, il va là où lui porte ses projets, quoi. Donc il commençait chez Shinden Productions, il me semblait. Colorful, il a fait chez Sunrise, et là, il vient d'entrer au sein du giron de Studio IG, qui est l'un des studios les plus prestigieux d'animation japonaise, puisque c'est le studio qui a été créé, entre autres, par Mamoru Oshii. Donc, voilà.
Et donc, ils ont la licence de Justin The Shell.
Exactement. Donc pour revenir à l'histoire, Miss Okusai raconte la vie de Oe Okusai, qui est en fait la troisième fille du célèbre peintre de la vague de Kanagawa, dont le Grand Palais a fait récemment une exposition on ne peut plus complète sur cet immense artiste qui vivait à l'époque d'Edo. C'est la description vraiment d'une femme très très en avance sur son temps, on va dire, qui est très très moderne, indépendante, dévouée à son art, et qui aussi dévoile une face beaucoup plus sensible, notamment la relation qu'elle a avec sa jeune sœur, qui est atteinte de cécité. On voit que les deux femmes partagent des... petites choses en commun, quoi qu'ils soient. C'est toujours sur la merveille du cinéma d'animation japonais, c'est de suggérer avec très très peu de choses et des choses qui sont universelles et vraiment très évidentes. Et notamment,
il y a une scène qui m'a vraiment touché, c'est quand les deux sœurs se retrouvent sur le pont et tu te rends compte que les deux en vérité ont un vrai don de l'observation, mais je trouve qu'elles le font pas avec forcément les mêmes sens. Et ça nous rappelle aussi que le métier d'artiste et surtout le métier de peintre, et une grande partie de ce don vient du don d'observation et après de le restituer. Et donc ça montre aussi l'affiliation de la jeune Onao à son père, et qui est pourtant pour elle quelqu'un d'absent, aussi absent visuellement que voilà. Et on comprendra plus tard la relation qu'il y a entre les deux. Mais c'est vraiment un film assez éblouissant en termes d'animation, le graphisme est très très soigné, et la façon dont Keiichi Hara arrive à faire à décrire cette époque qui vraiment c'est vraiment les dernières années du Japon féodal, vraiment c'est
le tout début du 19e siècle.
Exactement, c'est-à-dire
1914,
exactement, c'est-à-dire quand Okusai meurt, de toute façon l'ère Meiji arrive 2-3 ans après, donc c'est voilà, l'arrivée des Occidentaux et tout ça. Mais donc c'est un peu le dernier témoin de cette époque, de ce mode de vie japonais, voilà, qui aujourd'hui nourrit nombre de films et de romans. Et la façon dont il le décrit entre le quotidien, vraiment, de toute façon, c'est un cinéaste du quotidien, c'est vraiment ça qui l'intéresse. Et la façon dont il va dans le quotidien, où les superstitions vont se superposer, mais de manière très très naturelle, il va traiter du pouvoir de suggestion de l'art. De quelle façon il peut avoir de l'influence sur l'inconscient collectif, on va dire. Et là-dessus, c'est un film vraiment passionnant à bien des égards. Donc voilà, je pense qu'on en reviendra un peu plus longtemps.
On va en parler en septembre.
Voilà, mais c'est pour tout le monde. Il faut absolument le voir. Et parce que voilà, il faut le dire, Miyazaki et Takata ont des héritiers. Ils ont pris leur retraite, mais voilà, l'animation japonaise n'est pas en reste. Il y a encore deux très grands cinéastes, des jeunes cinéastes qui vont. Voilà, il y a Lo Soda, il y a encore Makoto Shinkai. Il y en a sûrement d'autres qu'on ne connaît pas qui vont peut-être exploser d'ici un ou deux ans. Et voilà.
C'est là-dessus aussi que je voulais conclure. Effectivement, on était, je me rappelle du bilan 2014, il y avait Julien qui nous écoute très certainement, mais qui n'est pas là ce soir, qui disait qu'après la fin des studios Ghibli, après Takahata et Miyazaki qui ont pris leur retraite, on n'attendait plus grand-chose de l'animation japonaise, si ce n'est des reboots de Saint Seiya et de Dragon Ball Z. Et heureusement, il y a cette nouvelle génération qui s'affirme avec des cinéastes qui ont une vraie perspective sur le monde, un vrai point de vue sur l'animation. Celle-là en fait partie, Keiichi Hara aussi, et donc il y a une vraie relève qui est en train de se faire au niveau du cinéma d'animation japonais, ouais. Qui est certainement plus intéressante que le cinéma d'action en prise de vue réelle actuellement en termes de propositions artistiques.
D'ailleurs, vu que les Ghibli vampirisaient un peu les sorties salles, ça empêchait la sortie d'autres films qui pouvaient être intéressants comme et Makoto Shinkai, justement. Bon, il y avait Léo Soda qui sortait quand même en salle, mais là, le prochain, apparemment, va avoir une grosse sortie très soutenue. Ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'il y avait les Ghibli autour qui vampirisaient un petit peu. Donc là, même son dernier Les Enfants Loups avait eu un bon accueil en salle, donc ça permet aussi de plus faciliter la sortie en salle de ces films, alors que Ghibli vampirisait un peu, même pour le grand public, quoi. Ils avaient le réflexe Ghibli, et puis le reste.
C'est extrêmement important d'aller voir Misu Kusai en salle pour aussi
soutenir cette nouvelle génération de cinéastes.
Parce que sinon, il n'y aura que des Albator et des Saint Seiya.
Non, mais pitié, quoi. Non, voilà,
même si je n'ai rien contre, mais néanmoins, c'est des propositions plus intéressantes en termes artistiques.
C'est la nostalgie, c'est différent.
Pas tout à fait, mais on y reviendra dans un autre podcast, car il nous reste un peu de temps pour évoquer l'un des plus beaux films de l'année. qui est Cemetery of Splendor, qui sort aussi le 2 septembre prochain. Chapman, ouais, c'est pas cool. Samir, je sais que tu l'as vu, que tu en es ressorti choqué. Peux-tu nous dire pourquoi ?
Non, pas choqué, mais envie de le revoir, certes. Écoute, quand je l'ai vu, effectivement, quand j'ai sorti de la salle de cinéma, je sais pas trop. Enfin, Sidi était avec moi. Il y avait même Davy Chou, d'ailleurs, on passe le bonjour à Davy Chou qui était là. C'était très intéressant de discuter avec un cinéaste de ce film. Écoute, quand je suis sorti de la salle, je ne savais pas trop quoi penser du film, à savoir si je l'avais apprécié ou si je l'avais rejeté. Je trouve que c'est effectivement un bel objet cinématographique très expérimental, que pour le coup, peut-être que Sidi en parlera peut-être mieux que moi là-dessus, mais pour le coup, Happy Chat Kong n'a pas forcément peur d'aller jusqu'au bout. Comme si les films qu'il avait réalisés auparavant lui ont permis maintenant il y a tellement une grande maîtrise de son cinéma, de ce qu'il fait, de soi-même, grâce à ses films précédents, qu'il se permet maintenant, et parce que aussi comme Kitano et comme les grands cinéastes, une entière confiance auprès de son spectateur, il se permet maintenant d'aérer complètement son récit, mais aussi parfois de lui donner un sens complètement très très fantastique, très surréaliste, ce qui donne donc un film pas un film contemplatif, mais quelque chose de très expérimental avec des variations comme ça autour du récit, sur l'histoire aussi du pays, sur lui-même. Donc ça donne un film complètement hybride, mais il y a quelque chose, enfin on est très très séduit par le film, on est attiré par ce film, même si bon, on n'y comprend rien, et en même temps j'ai envie de te dire c'est pas très grave si on comprend rien, c'est pas le plus important, on fout un peu. Il y a quelque chose qui nous séduit dans ce film, il y a des séquences extraordinaires, il y en a une par exemple, et là sur le coup il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est comment le cinéaste aujourd'hui travaille sur l'identité à travers ce qu'on appelle des traces silencieuses. Il y a une séquence incroyable où ces deux personnages principaux se retrouvent dans une espèce de jardin comme ça, entouré d'arbres anciens, et un des deux personnages qui est en train de montrer à l'autre qui est en train de lui faire comprendre qu'à cet endroit c'est des vestiges d'un temple ancien, mais ces vestiges on les voit pas en fait. Elle demande, parce que c'est deux femmes, elle demande à l'autre femme d'imaginer comment était à ce moment-là, à l'époque, comment était le terrain. Là, il y avait tel château, là, il y avait tel... Et donc, nous, on ne voit pas tout ça.
C'est même plus complexe que ça.
Alors, j'allais beaucoup... Voilà. Alors, j'allais le dire, en fait, l'un des deux personnages n'est pas une femme, mais c'est plutôt le soldat qui est réincarné en femme. Bon, c'est très compliqué, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, en fait... Il y a une espèce d'imaginaire qu'il enfin, nous, spectateurs, on imagine très bien la situation. Et pour qu'un cinéaste arrive comme ça à nous faire imaginer, à nous faire confiance pour rentrer dans l'imagination, je trouve ça vraiment incroyable.
Ce qui est effectivement incroyable dans cette scène, c'est que c'est complètement indicible. On essaie de la résumer, on n'y arrive pratiquement pas. On ne peut pas faire comprendre quelles expériences sont à l'œuvre dans le film. Et pourtant, quand on voit le film... Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'on n'y comprend rien, parce que justement, quand on voit cette scène, tout est limpide. On nous montre un bout d'arbre et on voit dans l'imagination des spectateurs un château luxuriant, les ruines qui sont là. Et il y a cette faculté du cinéma d'Happy Chapman et Rasita Cool à faire imaginer aux spectateurs quelque chose d'autre de ce qu'il montre dans la représentation de ce qui est montré. Bon, là, ma phrase est un peu plus compliquée, mais le film est extrêmement simple par rapport à ça, et il arrive très facilement à nous faire comprendre ça pendant qu'on est en train de le voir.
Incroyable. Quand je te dis qu'on n'y comprend pas grand-chose, enfin, je ne parle pas de cette séquence-là, d'ailleurs, j'ai bien précisé que cette séquence m'avait beaucoup impressionné par rapport à cette thématique de la trace silencieuse, c'est qu'il y a un moment, n'importe quel spectateur, un moment au début du film, quand ils entament un film, on essaie de savoir un peu de quoi ça va parler, où le cinéaste installe son récit, c'est normal. Donc il y a des petites choses comme ça qu'on a du mal à cerner, mais parce que c'est le cinéma d'Abby Chapman, parce qu'aussi il a une telle maîtrise du temps, de l'espace, qui fait que très vite on s'aperçoit que ce n'est pas très important de comprendre le scénario, donc on le suit. C'est ça où je voulais en venir. Après, c'est vrai que quand on lit un peu le synopsis, on comprend un peu ce qui se passe, mais ce n'est pas très important. Mmh. Écoute, je vais être très sincère avec toi. Le film en lui-même, il y a quelque chose avec ce film. Je n'arrive pas à en parler, peut-être parce... Et en même temps, je sens qu'il y a des moments comme ça qui sont très importants dans ce que j'attends du cinéma. Mais voilà, c'est un film très très particulier, non pas qui te met mal à l'aise, mais qui te met dans une espèce d'état de transe, quoi. Tu sais qu'il y a quelque chose d'intéressant, d'important qui est là, qui est en face de toi, et tu y vas. Mais tu sais pas du tout où tu vas, et quand tu as terminé, tu sais pas pourquoi tu l'as fait. Et c'est un peu ça mon rapport avec ce film-là. J'ai vu que deux films de Abby Chapman, mais j'avais pas cette sensation-là. J'avais plutôt une sensation... Et là, pour le coup, j'ai envie de te dire que... Et donc, c'est pour ça que ce film-là, avec du recul... Après avoir beaucoup réfléchi à ça, je trouve que c'est effectivement très intéressant cette expérience. En fait, on ne sait pas du tout où on va avec ce film. Après, peut-être que Sidi a un regard totalement différent, mais je suis complètement perdu avec ce film. Complètement perdu.
Mais je te rejoins quand même pour le coup. C'est vrai que le fait de ne pas comprendre, il y a énormément de clés qu'on peut avoir sur l'histoire de la Thaïlande. Sur des scènes qui ont une signification et une résonance particulière par rapport à la critique de la société du pays aujourd'hui, mais on n'est pas obligé de les avoir pour être happé par le film. C'est un film sur le sommeil aussi, c'est extrêmement important. Ouais. Ce sont des soldats qui sont sur un temple, sur les vestiges d'un temple, et qui sont soumis à une espèce de... Ils sont victimes d'une espèce de maladie étrange du sommeil. Ils dorment tout le temps. Et donc, le film nous entraîne dans les songes du cinéaste, dans les songes de ce soldat. Donc, le spectateur lui-même peut être dans un espèce d'état à moitié éveillé, à moitié endormi, suivre des bribes de narration et être entraîné par un récit comme ça. Donc effectivement, cet aspect de compréhension au sens rationnel n'est pas important, de compréhension autant d'être au sens d'être pris dans un récit, c'est-à-dire prendre avec. Là, par contre, on est complètement dedans.
Je pense que si, et je vais pas laisser la parole à Sidi, je pense que si à un moment dans le film on s'endort pendant 5 minutes, je crois qu'on aura compris exactement pourquoi on est là. Je suis persuadé.
Sidi, t'es-tu endormi pendant 6 minutes
Non, je me suis pas endormi. Alors, c'est intéressant mon rapport avec Wazakul. L'année dernière, on a eu un peu l'occasion d'en parler à l'occasion de la sortie DVD de Mekong Hotel.
J'ai un meilleur film pour toi.
Son meilleur film, ouais, enfin. Son film qui m'a le plus touché depuis le premier qui est sorti en France, à savoir Bliss Free Years, en 2002, qui avait été pour moi vraiment une belle découverte. Et j'avais dit que j'avais eu, tout en reconnaissant l'inventivité de son cinéma, les indéniables qualités de films comme Tropical Malady et bien sûr le cultissime Au Club Ennemi, je disais que j'avais pas le même sentiment que la plupart de la critique, qu'Abby Chapman était le grand cinéaste du siècle, du moment. Voilà, j'ai eu tendance à avoir une petite résistance face à cet unanimisme. Et ce que j'avais aimé dans Mekong Hotel, c'était que j'avais l'impression qu'il proposait des... Enfin, qu'il y avait un peu plus des ruptures plus franches, qui d'un coup me rendait un peu plus attentif. C'est-à-dire que j'avais tendance parfois à perdre un peu mon attention face à son cinéma, quoi. Voilà. Et le fait est qu'avec ce film, qui pour le coup est vraiment contemplatif, mais pas dans le mauvais sens, ce dernier-là... dont on parle, c'est Cemetery of Splendor, il y a une totale franchise, effectivement, de la proposition. Je suis là, tout simplement, non pas pour vous proposer un grand film intellectuel qui va vous demander une capacité à décrypter tout ce que je veux dire, mais je vous demande juste de la disponibilité. Soyez là, face à ces plans, et prenez-en ce que vous avez, ce que vous voulez, d'une certaine manière. Et c'est ce que je trouve extrêmement émouvant, à force. C'est cette extrême honnêteté du dispositif de Vera Zetacool. C'est un film de langueur. On voit des malades dans leur lit, on voit des femmes qui les entourent, qui leur parlent, et on voit ces gens en train de parler. On voit ces femmes en train de parler entre elles aussi. Il y a ce que l'on pourrait appeler l'héroïne du film, qui est une femme qui a une infirmité, qui a une jambe plus courte que l'autre, qui a elle-même un mal et qui veut quand même venir en aide à ces gens un peu plus mal qu'elle, et qui rencontre une jeune femme que l'on sollicite pour parler aux malades, je crois, et à leur famille. Dis-moi, Victor, si je me trompe. Et voilà, il y a des dialogues très intéressants entre ces deux femmes, qui ne manquent pas d'ailleurs d'humour. Voilà, c'est un film qui nous demande simplement d'être dans cet état de vacances. Et je pense qu'à partir du moment où on l'accepte, on finit par tout accepter. On finit par accepter tout ce qui nous est proposé. Et il y a des plans assez fulgurants dans lesquels on voit des personnages sans effets spéciaux particuliers passer d'un état de... Voilà, d'impuissance totale, d'incapacité à bouger, à une pleine santé. Voilà. Voilà, en une fraction de seconde, un même homme peut redevenir un guerrier, quoi. Pour ensuite retomber de sommeil. Enfin, voilà, il y a vraiment ce jeu-là de comment on va appeler ça dans un même plan, il peut exister plusieurs degrés de réalité. Voilà.
C'est ça, il y a une scène du film qui le symbolise assez bien et qui, à mon sens, est vraiment le point, le turning point, on va dire, le point crucial du film où le personnage principal rencontre deux jeunes femmes,
ouais, c'est ça.
Voilà, qui se présentent comme ça dans un environnement complètement banal de la Thaïlande. Et tout d'un coup, elles vont dire qu'elles sont des princesses et qu'elles sont immortelles et en fait, sont des personnages mythologiques. Et notre regard par rapport à ces personnages va complètement changer d'un dialogue à l'autre, le regard du personnage du personnage principal également. Et c'est vrai que là, on est dans cette espèce de basculement perpétuel entre le mythe, la réalité, ce qui nous est montré, la représentation d'un imaginaire complet. Et le film arrive formidablement à montrer ça.
C'est ce que nous a dit David Chou. Il nous a dit que Zetakun n'avait peut-être plus besoin maintenant de présenter l'imaginaire comme il le faisait avec force talent dans Club Ennemi, en nous montrant une sorte de Chewbacca aux yeux rouges.
Enfin, voilà, de singes de voilà. Fantômes.
C'est-à-dire que maintenant,
les fantômes sont partout.
Il suffit que les personnages s'énoncent comme étant autre chose que ce que l'on voit pour finalement que l'on y croit. Mais effectivement, il faut, Samir, on a parlé, énormément de disponibilité. Donc il n'y a pas à culpabiliser d'être un petit peu impatient par moment. Quoi. C'est-à-dire que c'est un cinéma. Voilà. Mais c'est pas un cinéma intimidant. Et je pense que ce film-là fait quand même du bien si on accepte. Sa proposition.
Alors on en reparlera à la rentrée, ainsi que notre petite sœur de Kore-eda, de The Assassin, de Ossia Ossienne, du Kurosawa vers l'autre rive qui arrive en septembre, voilà, et d'autres films donc qui vont nous arriver. Mais d'ici là, et d'ici l'été, j'aimerais bien faire un dernier tour de table dans lequel chacun d'entre vous va nous conseiller un film à voir en salle cet été, en salle ou en vidéo ou autre, et une attente qu'il y a parmi les films estivaux.